merci aux organisateurs. C'est un plaisir d'être là cet après-midi. C'est un plaisir d'autant plus grand que c'est dans une salle qui se tient à l'écart des centres-villes. On a un peu trop l'habitude des fois d'être toujours dans les centres-villes et pouvoir parler de la Palestine ailleurs me semble quelque chose de très important. Je vais essayer de vous parler des révolutions arabes et de la Palestine à partir de quelque chose que vous entendez souvent dans les médias, dans la presse, que finalement ces révolutions arabes ont prouvé surtout que la question palestinienne n'était pas très importante, qu'elle était secondaire, qu'on n'avait pas vu de mot d'ordre de solidarité avec la Palestine dans les rues du Caire ou de Tripoli ou de Tunis. Je pense que c'est une vision tout à fait fausse, mais avant de commencer, je crois qu'il faut dire quelques mots sur ces révolutions arabes sans entrer dans le détail, parce qu'on n'a pas l'occasion ici de venir. D'abord, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. C'est que ces révolutions ou ces mouvements de contestation ont concerné tous les pays arabes sans aucune exception. Ils ont été plus ou moins importants, plus ou moins réprimés, plus ou moins avec des succès plus ou moins grands. Mais du Maroc à l'Irak, il n'y a pas un pays où il n'y a pas eu des manifestations, où il n'y a pas eu des formes de revendications, une volonté de voir les régimes changer. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose aussi qu'il faut garder à l'esprit, au moment où règne une espèce de pessimisme en nous disant, regardez, on a un bébé d'un printemps arabe, on a un hiver islamiste, etc., c'est que ces révolutions ne sont pas finies, qu'elles continuent, que les peuples résistent, que les peuples bâtissent dans des conditions des fois très difficiles, essayent de bâtir leur avenir. Et ce qui est le plus frappant, c'est la résistance de ces peuples. Et on peut le voir dans des pays où la répression est extrêmement forte, comme en Syrie ou au Bahreïn, mais aussi ailleurs, il y a une espèce de volonté comme ça de changement. Et je donne toujours un exemple symbolique, mais qui est quand même pas négligeable du fait que ça avance malgré tout. C'est, vous savez qu'il va y avoir dans une semaine le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte. C'est la première fois qu'on ne sait pas à l'avance qui va être élu. Ça peut avoir l'air pour nous quelque chose de secondaire, mais je pense que ça reflète quelque chose. Si ce mouvement s'est développé partout, c'est que partout, au-delà des différences, et il y a des différences importantes selon les pays, selon leur histoire, selon leur structure sociale, disons du Maroc à l'Irak, il y a trois caractéristiques de ces sociétés du monde arabe qui sont communes et qui expliquent le fait que le mouvement soit étendu partout et qu'il ait un certain nombre de choses similaires. La première chose, c'est qu'on avait affaire à des régimes autoritaires mis en place depuis 20, 30, 40 ans, en général plutôt 30 et 40 ans, avec des dirigeants qui étaient toujours les mêmes, et quand ce n'était pas les mêmes, c'est leur fils qui leur succédait, et avec un système autoritaire qui brimait tous les citoyens, quels qu'ils soient, même ceux qui étaient complètement en dehors de la politique. Nous, quand on pense à l'autoritarisme, on pense essentiellement à l'autoritarisme politique, arrestation de dissidents, etc. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que dans le monde arabe tel qu'il était jusqu'à ces révolutions, le citoyen était à la merci des autorités, sans aucune possibilité de recours. Et le symbole de cette révolution, vous savez, c'est ce jeune Bouazizi qui s'est immolé. Et ce qui est intéressant à se rappeler, c'est que ce n'était pas un opposant politique, c'était un jeune qui voulait essayer, qui était marchand des quatre saisons, qui essayait de vendre ses produits et qui était sans arrêt harcelé par les forces de police. Et cet arbitraire est quand même quelque chose de très important et qui a fait que la revendication centrale qui a uni les peuples contre leur régime, c'était moins l'idée de démocratie ou même de liberté que l'idée de karam, c'est-à-dire l'idée de la dignité, retrouver des citoyens. Les citoyens voulaient retrouver leur dignité. La deuxième raison qui est commune à toutes ces révolutions, c'est le niveau de corruption économique, de pauvreté, de libéralisation économique. C'est-à-dire dans les 10 dernières années, il y a eu une accélération à la fois d'une libéralisation économique imposée souvent par le Fonds monétaire international ou l'Union européenne en disant il faut privatiser parce que c'est ça l'efficacité. Ça s'est traduit en réalité par un vrai pillage des différents pays, c'est-à-dire on n'a pas assisté à une privatisation normale, je ne sais pas s'il existe des choses qui s'appellent des privatisations normales, mais le fait que les grandes entreprises étaient achetées à des prix bradés par des gens qui étaient proches du pouvoir politique, tout ça se faisant un peu, si vous voulez, comme ça s'est fait en Russie au moment du passage de l'Union soviétique à la Russie sous Eltsine. C'est-à-dire on a privatisé, c'est-à-dire en fait on a bradé toutes les richesses nationales au profit d'une toute petite caste, au moment même où, évidemment là aussi sous la pression des instances internationales, on demandait à l'État de dépenser moins dans l'éducation, dans la santé, etc. etc. Et il faut relire quand même, parce que c'est quand même il n'y a pas très longtemps, les rapports élogieux du Fonds monétaire international ou de l'Union européenne sur l'expérience tunisienne, sur l'expérience égyptienne, pas seulement en termes politiques, mais aussi en termes économiques, en disant que c'était un grand succès, alors que ce que les gens vivaient, c'était un extraordinaire appauvrissement, paupérisation, avec une richesse insolente qui s'affichait de plus en plus. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième point commun, disons, de toutes ces révolutions arabes, c'est la place de la jeunesse. C'est-à-dire la génération qui arrive aujourd'hui à l'âge 20 ans, 22 ans, est la génération la plus nombreuse de l'histoire du monde arabe. Je donne toujours ce chiffre parce qu'il me semble étonnant. En 2010, il y a 1,5 million d'Égyptiens qui ont fêté leurs 20 ans. C'est-à-dire, si vous prenez entre 18 et 25 ans, il y a 10 millions de jeunes qui arrivent à l'âge adulte et qui sont mieux formés que leurs aînés, qui ont plus d'autonomie et en même temps qui ne trouvent pas de travail et qui voient une société bloquée à la fois pour des raisons politiques et économiques. Disons, ça, c'est le point commun de toutes ces révolutions et qui explique aussi le fait qu'elles perdurent. C'est que ça ne va pas s'arrêter. Réellement, je crois que ça ne va pas s'arrêter. Alors, après, on peut dire, mais pourquoi en Algérie, ça n'est pas plus important? Pourquoi au Maroc, il y a telle et telle résistance? C'est évident que quand il y a des mouvements révolutionnaires, il y a aussi une contre-révolution qui se met en place. Il y a les pouvoirs qui apprennent comment on résiste. Mais je pense que ça ne s'arrêtera pas. Alors, une des questions qui est souvent posée, c'est, mais finalement, on n'a rien vu venir. C'est-à-dire, personne n'avait prédit ces révolutions. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire, c'est vrai dans le sens, de toute façon, personne ne peut prédire les révolutions. Je veux dire, pourquoi à un moment donné, le suicide d'un jeune en Tunisie déclenche cette espèce de mouvement qui ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'est pas fait 6 mois avant ou 6 mois après? Personne ne peut dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les ingrédients que j'ai donnés de ces révolutions étaient présents, mais surtout que ça a été préparé aussi par ce qu'on peut appeler une espèce d'intranquillité permanente, c'est-à-dire de petites révoltes autour de 1001 thèmes différents. Alors on a vu en Égypte, par exemple, ou en Tunisie, des grandes grèves ouvrières. L'Égypte a vécu entre 2005 et 2010 les plus grandes grèves ouvrières de son histoire. Il y a eu les révoltes de Gafsa. Mais en Égypte, par exemple, il y a eu aussi des centaines de manifestations autour d'une privatisation de telle entreprise, autour d'une répression, autour de les quartiers informels qui s'organisaient. Et je crois que ça a été quelque chose de très important qui a préparé le mouvement. Alors, on peut dire que ça a préparé le mouvement, quoi. Évidemment, seulement après que le mouvement a éclaté, mais je crois que c'est important à savoir. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel. Et parmi ces choses qui ont préparé le mouvement, il y a les mobilisations pour la Palestine. Et notamment 2008, c'est-à-dire au moment de l'invasion israélienne de Gaza, il y a eu à la fois, en Égypte notamment, beaucoup de mouvements de solidarité avec la Palestine qui se sont développés, et une répression du régime qui a essayé d'éviter toute extension de ce mouvement dont le régime savait qu'à partir d'un moment, il pouvait se retourner contre lui. Mais le fait que la Palestine a été un élément de la mobilisation, que l'humiliation subie par le monde arabe, par cette les agressions perpétuelles israéliennes sans aucune riposte des régimes arabes, a été aussi un des éléments de prise de conscience des gens. Et qui fait qu'aujourd'hui, cette question, contrairement à ce que vous pouvez lire ici et là, elle reste très importante. On a vu, par exemple, le Premier ministre tunisien recevoir le gouvernement de Gaza, c'est-à-dire le Hamas, c'était la première visite officielle d'un dirigeant étranger en Tunisie, de ce niveau, enfin d'un Premier ministre. On a vu des manifestations importantes de solidarité avec la Palestine en Égypte. On a vu dans les débats télévisés aujourd'hui sur la question, sur l'élection présidentielle, cette question de la paix avec Israël est une question qui est importante. Et on a quelque chose, je crois, qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que cette question, elle est au cœur d'une aspiration des peuples arabes, c'est-à-dire le fait que il y a en Palestine une injustice qui a été faite non seulement aux Palestiniens, mais à l'ensemble du monde arabe, qu'elle est le symbole d'un double langage occidental, du deux poids, deux mesures, de la manière dont on parle du droit international, quand on va n'importe où ailleurs, mais qui ne s'applique jamais à la Palestine. Mais ce qui change aujourd'hui avec ces révolutions arabes, c'est que avant, les gouvernements pouvaient faire comme si cette opinion n'existait pas. Parce que Moubarak savait très bien que 95% de la population était contre la politique qu'il menait à l'égard d'Israël et sur laquelle je vais revenir. Mais il n'avait pas de compte à rendre. Aujourd'hui, quelles que soient les évolutions, elles sont compliquées à terme, on va avoir des gouvernements qui vont être plus responsables devant leur propre population. Et donc, dans lequel le poids des opinions publiques et cette aspiration à voir satisfait les droits nationaux des peuples palestiniens va être très présent. Parallèlement à ça, qui est, disons, le poids des opinions publiques, il y a effectivement la chute de Moubarak, notamment, marque un tournant géopolitique dans la région, hein, puisque depuis les accords de Camp David, et en tous les cas depuis une dizaine d'années de manière encore plus forte, l'alliance Égypte, Israël, États-Unis était l'élément central de toute la politique dans la région. C'est-à-dire que, par exemple, bon, ça fait maintenant, depuis, disons, la mort d'Arafat et l'échec de la seconde intifada, on a eu pendant 4, 5, 6 ans des négociations. Donc tout le monde savait qu'elles ne pouvaient absolument pas aboutir, c'était des négociations sans principe, sans base, sans... Mais l'autorité palestinienne pouvait mener ces négociations parce qu'elle avait la caution du régime égyptien qui est, comme vous savez, enfin, l'Égypte est le principal pays du monde arabe et malgré son affaiblissement, il dispose d'un grand poids. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. Et on l'a vu d'ailleurs assez rapidement puisque l'autorité palestinienne a tiré d'une certaine manière les conséquences en refusant de reprendre les négociations, même si elle est soumise à des formidables pressions américaine, européenne, pour reprendre sans condition les négociations. Mais elle a refusé ça, elle est allée aux Nations Unies en essayant de trouver une autre voie pour obtenir les droits nationaux. Mais on voit bien que la période, disons, des négociations sans fin et sans but, elle est terminée. Et d'une certaine manière, ça oblige l'autorité palestinienne ça oblige l'autorité palestinienne à réfléchir sur une nouvelle stratégie. Ceci étant, il faut reconnaître que la direction palestinienne est en crise. Ce n'est pas directement lié, ça, aux révolutions arabes. Elle est divisée d'abord en deux, comme vous savez, entre le Hamas et le Fatah, entre l'autorité palestinienne et le pouvoir à Gaza. Mais au-delà de ça, elle n'a plus de stratégie. Il n'y a plus de stratégie palestinienne, dans le sens où la stratégie de négociation prônée par l'autorité palestinienne a échoué et, compte tenu des rapports de force actuels et notamment de l'intransigeance totale du gouvernement israélien, on ne voit pas comment elle pourrait reprendre avec une chance de succès, mais la stratégie développée par le Hamas, qui était à un moment une stratégie de lutte armée, au-delà de ce qu'on peut penser de la lutte armée, de sa définition, etc., elle n'apparaît pas capable du tout d'obtenir des gains politiques. Elle apparaît d'autant moins capable après l'invasion israélienne de Gaza, puisque vous savez qu'il y a maintenant un cessez-le-feu entre Gaza et Israël, et que le Hamas essaye, tant bien que mal, face à des groupes plus radicaux, de maintenir le cessez-le-feu. Donc on est vraiment, il faut le reconnaître, dans une impasse pour la stratégie palestinienne telle qu'elle s'est développée depuis les années 60. Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé dans le monde arabe peut ouvrir une nouvelle page pour la stratégie palestinienne, c'est-à-dire de réfléchir comment, dans un monde arabe qui est en train de se changer, qui s'est modifié, quelle pourrait être la stratégie des Palestiniens. Alors il y a des débats importants chez les Palestiniens sur les objectifs, un État, deux États, comment faire, etc. Bon, ça c'est la responsabilité des Palestiniens eux-mêmes. Mais d'une certaine manière, ce que les révolutions arabes ont montré, et je pense que c'est peut-être la leçon essentielle, c'est que, on a parlé du retour des révolutions, je dirais du retour des peuples. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie montrent que c'est les peuples qui font leur propre histoire. Et que, quelles que soient les ingérences extérieures, et Dieu sait s'il en existe au Proche-Orient, il y a un moment où, quand ils prennent en main leur destin, on ne peut pas les arrêter. Et l'exemple de l'Égypte est quand même assez intéressant. Je veux dire, voilà un pilier de la politique américaine dans la région. Personne, enfin aucun régime, ni européen, ni américain, ni saoudien, ni autre, n'a été capable de voler au secours de ce régime. Et ne croyez pas du tout qu'on peut lire ici ou là que les Américains voulaient la chute de Moubarak. Enfin, il y a des déclarations d'Obama, etc., jusqu'à la dernière minute, disant on ne choisit pas entre le président et la rue. Donc il n'y avait pas du tout cette volonté. Et pourtant, malgré l'importance, le peuple égyptien a été capable d'imposer un changement qui est encore une esquisse de changement, mais qui est quand même important. Donc d'une certaine manière, ces révolutions arabes reposent la question de quelle stratégie pour les Palestiniens. Et je terminerai là-dessus en disant, si on prend l'histoire récente de la Palestine depuis 1948, on peut dire que 1948, la Nakba, a marqué une défaite, non seulement une défaite de la Palestine, mais presque une disparition de la Palestine de la scène politique. Les années 70-80, avec l'OLP, avec la création du Fatah, avec les mouvements de résistance, a marqué une renaissance de cette politique palestinienne, avec une volonté de développer une stratégie. Cette stratégie a échoué, on pourra en discuter éventuellement pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que reste présent sur la carte politique le peuple palestinien, et que cette présence est à la fois un obstacle à la politique israélienne d'éradiquer ce peuple, de le faire disparaître, mais aussi un espoir qu'il puisse, dans le nouveau contexte, redéfinir sa stratégie pour arriver à l'obtention de la reconnaissance des droits nationaux pour lesquels il lutte maintenant depuis plus de 60 ans. Merci.